Salut les joueuses et salut les joueurs. Nous sommes le 7 mai 2016 et vous écoutez le 76e épisode de Proxy Jeux. Et nous allons vous parler de jeux de société. Des chutes et aujourd'hui première émission en direct et en public depuis le week-end de Proxy Jeux. Et pour cette émission spéciale, je suis accompagné de Cyrus. Salut Cyrus.
Salut Dédé.
Ça va bien?
Super bien.
Je suis avec Flavien aussi.
Salut, et je suis en short.
En short,
car le week-end nous a réservé un beau soleil.
Un beau soleil. Donc Flavien de Playtime, c'est ça
qu'on... Ouais, de Hearthzone, Playtime, voilà.
Truc, voilà. Ces autres podcasts. Nous sommes avec Peggy aussi.
Salut. Bonjour. Peggy.
Avec Thibaut.
Bonjour aussi.
Et avec Lucha.
Salut à tous.
Merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et un grand merci à nos Patreons de nous soutenir ce podcast. Et bravo à ceux qui ont le courage de nous affronter tout le week-end et subir tout le week-end mes jeux de mots à 2€.
Donc Hervé Mignot, Gaëtan Perrin, Cyril Guillaumarc, Franck, Benjamin, Jean, Peggy, Geoffroy, Siol, Boub, Loïc Lacombe, Olivier Darchy, Mister Neil, Bab, Ludy Boquet, Vincent Vido, Le Durny, Deckmoon, Flavien, c'est moi, Lacariatre, Yann Ménez, Alex P, Krishk, Baptiste, Monsieur Tino, Arnaud Van Muzivinkel, Johan Bonneau, Guillaume Aubert, un Toulousain, Julie, Jérôme Cavu et Altaripa.
Jolie, belle prestation, je trouve. Hein.
Bravo, Flavien. Donc, Cyrus, nous, on a fait tirer une tombola pour la dernière émission. Ton jeu fétiche.
Mon jeu fétiche, maudite momie.
On en reparle encore durant cette émission. Ça fait au moins 50 émissions qu'on en parle.
Ah non, c'est pas ma faute. Enfin, si, je l'avais placé exprès dans les cadeaux pour qu'on puisse en reparler encore.
Combien de parties de maudite momie déjà dans ce week-end?
Dans ce week-end, je sais pas, là, honnêtement. Moi, j'en ai fait une,
pas avec toi, donc ça fait au moins deux.
J'en ai eu plus que ça.
Ok.
Ouais, et donc, le vainqueur. Eh bien, le vainqueur, c'est Flavien Mauboucher, qui est avec nous.
Bravo, Flavien.
Eh ben, j'en suis ravi. Le problème, c'est que le jeu est tellement bon, que je l'avais déjà, donc je vais en faire profiter un membre du week-end jeu qui ne l'a pas et qui découvrira ce superbe jeu.
Ah, c'est très,
c'est mon côté altruiste et humaniste.
Un beau geste. Tu pouvais aussi le revendre sur Ocaseo. Hein.
Ouais, mais c'est pas comme ça, moi. Je trouve que celui qui dirige Ocaseo, bof.
Non, on l'aime pas, ouais. Depuis qu'il a abandonné un proxy jeu, lâchement.
Non, et puis les petits jeux, ça se vend pas bien sur Ocaseo parce qu'il faut les envoyer et il y en a pour plus cher de, de frais de port.
Pour cet épisode 76, le jeu qui sera gagné par nos soutiens, il s'agit de Sous le Masque, un jeu que nous a offert Guillaume Montiage.
Donc l'auteur de ce scénario, un scénario pour Time Stories. Voilà, donc on remercie tout d'abord Guillaume Montiage pour de nous avoir offert cet exemplaire.
C'est très sympa de sa part.
Voilà, et on va en faire profiter donc un de nos Patreons. Un de nos patrons du mois d'avril.
Voilà. Qu'on tirera au sort dans la...
Time Stories, meilleur jeu de la décennie, est-il nécessaire de le préciser?
Flavien, si tu le dis, on te croit.
Attends, mieux que Maudite Momie?
Largement.
Ah, un duel s'engage.
Ça y est, il y a un clash déjà, un clash entre les deux podcasts.
Les commentaires et les notes sur iTunes, on n'a pas regardé.
Bah si.
Si,
j'ai regardé. Mais j'ai regardé, j'ai bossé, j'ai fait mon boulot avant de venir. Et j'ai l'honneur et le plaisir et l'immense tristesse en fait de vous annoncer qu'il n'y a aucun nouveau commentaire sur iTunes. Et là, je pense qu'il va falloir qu'on fasse des menaces. Ouais. Il va falloir qu'on tue un chat.
Voilà.
Ou un petit enfant, il y a des petits enfants là. J'ai une idée sur qui est-ce qu'on va pouvoir éliminer.
Il y en a un qui est super brillant là, qui est super brillant.
Ah là, le pauvre.
Donc, on aurait mieux fait de pas en parler du coup, en fait, qu'il y ait pas.
Parce qu'on va tuer un chat, quoi.
Ah, non, mais en fait, les gens qui nous notent pas sur iTunes passent encore, Mais faudrait qu'il donne sur Patreon.
Au moins, ouais. Et, attends, au moins. On va, je vais faire une comparaison pour voir.
Ah, en fonction des notes et des Patreons.
C'est ça.
On n'utilise pas iTunes, c'est pour ça.
Mais oui. Ah oui, tout le monde est sous Android, là. La liberté, un petit peu. Ah.
Bah, c'est pas grave, tu crées un compte, hein.
Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler. Alors, nous avons, Peggy. Peggy, on t'a.
C'est moi.
On t'a fait venir ici dans ce week-end. C'est pas que pour jouer.
Ah,
c'est
aussi pour. Intéressé alors.
C'est aussi pour travailler un petit peu. Tu vas nous parler un peu de ton métier, qui est ludothécaire, c'est ça.
Tout à fait, c'est ça.
C'est un vrai métier, ça.
Et oui, oui, je suis payée pour jouer.
Voilà. On va en parler.
Et on a aussi donc Thibaut et Lucha de l'association, vous
Annecy
vous rappelez ? Annecy Ludique.
Oh, merci.
Ça se passe à Annecy, ça ?
Il me semble.
Ouais, il me semble. Okay. Et donc, vous présentez des jeux dans les festivals, après ce qu'on m'a dit.
C'est ça, notamment à Cannes, en fait, où on s'occupe de l'animation du stand de l'Asdor.
Ok, on parlera de ça avec vous aussi un peu après. Mais avant de parler de vos métiers respectifs, nous avons... quelques points d'actu. Cyrus, t'avais un petit point d'actu.
Ouais, j'avais envie de faire un petit coup de cœur encore.
Toi, tu fais toujours des petits
coups de
cœur.
En fait, je crois que je vais, ça va être ma marque de fabrique.
C'est ta marque de fabrique, tu fais des petits coups de cœur.
Ouais. J'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube, en fait, de trois personnes. Donc la chaîne YouTube s'appelle T'as vu à quoi tu joues? Et ce sont trois personnes qui présentent soit un jeu, soit une catégorie de jeu. Et en fait, c'est des gens qui viennent du théâtre. Du coup, c'est quelque chose de vraiment de très mis en scène, assez dynamique. Alors bon, c'est du un peu théâtre de boulevard entre guillemets, parce que c'est très très extrémiste dans les expressions.
Et en fait, ils font des genres de petites scénettes pour présenter des chroniques ou pas forcément.
Alors, est-ce qu'il y a des blagues ?
C'est pas exactement comme ça. Il y a des blagues, ouais, il y a des blagues et des blagues à peu près du même niveau parfois que celles de Dédé, mais pas des jeux de mots en fait. C'est plus dans le visuel. Franchement, enfin, je vous invite vraiment à aller découvrir cette chaîne YouTube. Vous n'apprendrez pas forcément, enfin, si vous connaissez déjà bien le milieu du jeu, vous n'apprendrez pas forcément de choses sur les jeux, mais c'est vraiment divertissant, je trouve. Ça dure un quart d'heure. Ils ont toute une rubrique, donc, enfin, ils ont un chapitre, je veux dire, une partie où effectivement c'est soit un jeu, soit un type de jeu qui est présenté. Donc, par exemple, ils ont fait les jeux de construction. Voilà, donc ils ont présenté 3-4 jeux de construction. Ils ont fait aussi un focus sur Game of Thrones, le jeu de plateau. Hein,
le Monopoly Game of Thrones, tu veux dire.
Ils ont fait le Monopoly. C'était le premier. Ils ont fait le Monopoly. C'est pas le meilleur. Hein, c'est le premier en plus. Puis bon, ouais. En plus, le sujet en lui-même est pas super folichon. Voilà. Enfin bref, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. En tout cas, l'initiative elle est intéressante et je trouve on voit émerger des choses comme ça, un peu de la créativité, de limite de l'art en fait autour du jeu de société. Et, enfin moi j'ai le sentiment que ça devient
mainstream en fait. C'est
ouais, ça il y a un petit côté mainstream effectivement. Enfin, pour moi quand un domaine commence à faire naître de l'humour, de l'art, c'est qu'il gagne entre guillemets des galons quoi.
C'est vraiment beau ce que tu dis. À devoir jouer, on croirait pas que tu sois un poète comme ça en fait.
Ça, merci Thibaut pour cette.
Désolé.
Pour rebondir sur Cyrus.
Oui, Flavien.
Eh ben, il y avait aussi. Et tu games aussi, donc des Québécois, il me semble, qui font aussi un peu des petites scénettes comme ça. Assez courte également. Je me rappelle de celle de À la bouffe, par exemple, du Scorpion Masqué, qui décidément sponsorise cette émission aussi, qu'ils avaient fait la présentation du jeu, mais avec des vraies pâtisseries. Et c'est assez amusant aussi. C'est presque de la performance comme ça autour du jeu de société. Et c'est ce que tu dis est intéressant. Effectivement, quand il y a des choses qui naissent autour du jeu de société, pour parler du jeu de société, pour les jeux vidéo, il y a les youtubeurs, etc. On voit que ça commence aussi à arriver dans le jeu de société, au-delà de la Trick-Track TV, des vidéos règles ou autres. Et ce que tu dis est vrai. C'est vrai que ça permet de montrer que ça se popularise. Mainstream dans le bon sens du terme, quoi, au niveau populaire, mais
voilà, ça touche plus de monde, c'est ça qu'on va dire. Et donc, on peut devenir youtubeur de jeux de société bientôt, c'est un métier qui va payer.
Est-ce que ça va payer? Je suis pas sûr.
T'es prêt à abandonner ton travail pour ça ou pas forcément?
Youtubeur, écoute, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, ça paye pas. Alors, je sais pas, les youtubeurs, est-ce que ça payerait mieux? C'est pas dit. Voilà, je le souhaite, à ces youtubeurs, si ça peut leur ramener un peu d'argent, pourquoi pas,
Ouais. Et tu nous avais aussi un site dont tu nous voulais nous parler. Pélopia.
Ouais, j'ai découvert ça il y a une semaine ou deux. Un site qui propose un service de location de jeux par correspondance avec des options d'achat. Alors c'est en gros c'est une boutique mais avec un mode de comment dire un business plan un peu particulier parce que là ils vont vous envoyer des jeux tous les mois. Alors il y a trois types d'abonnements, il y a un abonnement qu'ils appellent découverte pour 15 ou 25 euros par mois. Grosso modo, vous allez recevoir tous les deux mois deux jeux que vous allez choisir. Puis après, ça va vous permettre d'acheter les jeux avec des réductions. Alors bon, je connais pas tous les détails. J'imagine que c'est sûrement les jeux que vous avez reçus que vous pouvez acheter moins cher. Typiquement, si vous l'avez joué en plus, vous l'avez potentiellement usé. Donc c'est le principe aussi. Alors je crois que ça prend pas en compte les frais de port. C'est ces trucs là, donc il faut rajouter des frais de port quand même par là-dessus. Voilà, et puis après ils ont une gamme entre guillemets au-dessus amateur, donc là c'est 4 jeux tous les 2 mois et puis une gamme rôliste. Alors là je suis un peu plus étonné en fait parce que louer un jeu de rôle, autant louer un jeu de société, pourquoi pas, mais louer un jeu de rôle, je sais pas ce que t'en penses Peggy.
Non, effectivement, je vois pas trop l'intérêt, surtout que tu peux acheter la plupart des jeux en PDF, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. À transporter, ouais. Puis tu lis quoi quand tu y joues, il faut vraiment avoir le bouquin sous la main, donc
et ouais. Le lire
après ça dépend quel est-ce que tu sais quel jeu ils proposent.
Non j'ai pas regardé là, je t'avoue, mais ils ont 900 références au total, donc j'imagine non plus que ça,
mais parce
je crois.
Que combien de temps tu les as avant de pouvoir les rendre, ils disent, ou c'est deux mois,
j'imagine
ou...
que comme ils envoient tous les deux mois, j'imagine qu'il faut que tu le rendes au bout de deux mois.
Ouais, parce que du coup deux mois lire le jeu de rôle plus le faire jouer, c'est ça peut être voilà, c'est pas forcément bon, tu peux faire une partie pour voir ce que ça donne, quoi.
Bah, mais... si c'est des jeux d'initiation assez rapides à lire, pourquoi pas, quoi. En tout cas, c'est bien qu'ils en proposent.
Ah oui, c'est une bonne initiative.
Mais on va pouvoir voir de toute façon le parallèle avec la ludothèque. C'est vrai que là, c'est une ludothèque Pélopia qui propose donc tous les deux mois, c'est ça, les 24 euros. On va voir un peu les offres que vous proposez en ludothèque. Si finalement, c'est pas plus intéressant d'aller dans une ludothèque locale avec tout ce que ça engendre en plus comme contact humain que t'as pas forcément en commandant. Ça a un avantage peut-être pour les personnes qui n'ont pas de ludothèque près de chez eux. Mais aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a un bon réseau de ludothèques dans la France. Donc, est-ce que c'est amené à avoir un succès à long terme? Ça, je suis pas persuadé.
Bah, un bon réseau de ludothèques, non, hein, parce qu'en France, il y a à peu près 1200 ludothèques seulement. Et rien qu'en région parisienne, il y en a très peu. Dans les Yvelines, je crois qu'on doit être 5. Donc, il y a vraiment pas des ludothèques partout. Et il y a beaucoup de ludothèques qui sont réservées à la petite enfance. C'est-à-dire que ça s'arrête à 6 ans. Ou à 8 ans pour un peu plus grand, mais des ludothèques qui proposent des jeux pour tous les âges, finalement, il y en a pas beaucoup.
Du coup, toi, tu penses que ce service est pertinent ou?
Bah, je pense que c'est toujours pertinent. Ça s'adresse pas forcément non plus au même public. Peut-être à des gens qui connaissent déjà les jeux et qui veulent les emprunter pour des soirées. Ils ont peut-être pas besoin qu'on leur conseille les jeux.
Parce que moi, c'est vrai que c'est le tarif qui me paraît 25 euros pour l'offre découverte. Alors on parlera peut-être des tarifs en ludothèque, des adhésions, etc. Et puis parce que après bah, aussi
25
chez...
euros tous les 25 euros tous les deux mois pour avoir
des jeux prêtés. Et éventuellement après, ouais, tu peux les acheter avec réduction. Donc c'est pas non plus comme si y avait le coffre à jouer qui est né, qui propose une box tous les mois avec des jeux dedans, qui est moins de 20 euros. Là c'est quand même 25 euros pour un prêt avec option d'achat du jeu presque au prix coûtant, même s'il y a une petite réduction. On en reparlera de toute façon avec Peggy au niveau de l'offre des ludothèques, mais moi ça me paraît quand
c'est
même assez.
C'est un peu le système France Loisirs ou comment ils faisaient ça pour les
Atlas, CD, édition Atlas.
Ouais. Ah non. Non, France Loisirs où ils t'envoient des livres tous les mois, quoi.
Ouais. Donc là sur le site on voit il y a Pathfinder, il y a le Trône de Fer, le jeu de rôle, Star Wars aux confins de l'Empire. Du coup, Peggy, est-ce que ça fait évoluer ton évolution?
Star Wars, bon, moi, je joue pas parce que c'est pas un univers que j'aime beaucoup, mais je sais que les jeux d'initiation Star Wars sont très bien faits. Donc, effectivement, il y a un coffret qui se prête bien au prêt, et Pathfinder, c'est pareil. Hein. C'est des jeux, ça me paraît assez adapté.
Ouais, enfin après je vois il y a du Dark Heresy, là c'est du jeu de rôle classique, quoi.
Peut-être que leur idée c'est que les personnes regardent le jeu et si ça leur plaît, ils le gardent un peu, je pense, ouais. comme dit David du France Loisirs, et Bah, il va falloir que vous alliez les interviewer.
Ouais. Bah, voilà. Ouais, mais effectivement, donc, c'est écoute, un petit côté France Loisir, effectivement, comme tu dis. Ouais.
S'ils nous écoutent, pelopia.com, vous pouvez nous contacter, on fera une émission avec vous.
Le principe, c'est peut-être t'essayes, tu gardes. Si ça te plaît pas, tu le renvoies.
Ok, ouais. Voilà, enfin bon, voilà. En tout cas, ça a piqué ma curiosité. Encore une fois, c'est des nouvelles initiatives, en tout cas. Je trouve que c'est intéressant à saluer. Effectivement, tu parlais du coffre à jouer. Et d'ailleurs, je vais recouper parce que j'ai oublié tout à l'heure, l'histoire des youtubeurs. En fait, leur deuxième, grand volet, en fait, c'est qu'ils sont abonnés à cette box, là, le coffre à jouer. Et donc, en fait, ils déballent le coffre à jouer, ils déballent leur box dans une vidéo et puis ils mettent un petit peu en scène.
Un open the box, quoi.
C'est ça, ils font l'open the box du coffre à jouer. Donc, qui est effectivement une box qu'on reçoit tous les mois avec un jeu dedans et il y a différentes gammes, si je dis pas de bêtises.
Ouais, ils seront en interview sur Playtime bientôt aussi.
Comment ils placent sa
petit,
pub
petit teaser.
Comment ils placent sa pub.
On coupera ça au montage.
T'avais autre chose
Non, moi j'ai fini là-dessus.
On peut attaquer alors avec...
On va pouvoir enchaîner avec nos invités.
Donc on enchaîne avec nos invités. Donc Peggy, ludothécaire. Moi je connaissais les médiathécaires, ils achètent des livres. Toi est-ce que c'est pareil, t'achètes des jeux ?
Eh oui, j'achète des jeux effectivement, mais voilà, je fais pas que ça. C'est un métier qui est plus proche de l'animation. Et... Donc moi je travaille pour la maison des jeux de Trappes, c'est dans les Yvelines. Donc on a un grand espace dans lequel les gens viennent jouer. Donc notre métier c'est de proposer des jeux, des jouets et de faire jouer.
Ok.
Donc
il y a du jouet aussi.
Il y a également du jouet. Donc on a un espace pour les 0-6 ans qui est vraiment adapté pour les tout petits où il y a pratiquement que du jouet, quelques premiers jeux de société. Et après on fait jouer tout le monde, c'est-à-dire que moi je reçois aussi bien des classes de maternelle que des retraités, que des soirées jeux adultes, et on essaye de faire jouer un maximum de personnes.
La maison des jeux, c'est un réseau, c'est ça? Je sais qu'on en a une aussi à Strasbourg. C'est un réseau, une franchise, chacun est indépendant ou c'est un truc qui est un peu...
Alors je crois qu'historiquement c'est des noms qui ont été adaptés dans les années 80 où il y avait un peu les maisons pour tous, les maisons des jeux. Je sais qu'il y en a plusieurs en France mais on fait pas partie du même réseau. Par contre il y a une fédération en France qui est la Fédération des Ludothèques de France, la LF, qui est une association à laquelle on peut participer et qui propose surtout pour les ludothécaires des formations, des journées de formation et puis des rencontres où on peut échanger sur nos pratiques. Mais sinon, maison des jeux en soi, ça a peut-être été un réseau à une époque, mais maintenant ça ne l'est plus.
Ok. Et donc vous, est-ce que vous expliquez les règles ? Moi, c'est une question que vous expliquez les règles, vous faites des animations jeux dans votre ludothèque ou ouais. Les gens ils peuvent seulement emprunter
Alors en fait on reçoit différents types de publics. En fait mon temps de travail en gros est découpé en trois temps. J'ai un temps où j'ai pas de public. Donc ça va représenter toute la gestion de la collection de jeux comme dans une bibliothèque on gère les livres, nous on va gérer les jeux. Donc la commande, le rangement, réparation des jeux, nettoyage des jouets, et puis aussi jouer parce que il va falloir aussi que tous les jeux qu'on reçoit, on lise les règles. Comme mes collègues n'aiment pas les règles, c'est moi qui lis 99% des règles des jeux qu'on reçoit. Après, je les fais jouer à mes collègues pour qu'on puisse y jouer. On a un tiers du temps où on reçoit des groupes, donc c'est pas mal d'écoles, des écoles maternelles, des écoles élémentaires. On reçoit aussi parfois des collégiens, des lycéens. On reçoit aussi beaucoup de publics handicapés, d'enfants qui ont surtout des troubles du comportement. Des groupes de retraités, en fait on peut recevoir vraiment tout type de groupes et d'associations. Pour chaque partenaire, on va faire un projet un peu différent. Et bien sûr, quand le groupe vient, on explique les jeux. Alors souvent, le plus simple pour nous, c'est de pas faire du jeu libre, mais de choisir déjà une sélection de jeux qu'on va proposer au groupe.
Pour garder un même thème ou une même mécanique.
Oui,
c'est ça.
Alors pas forcément un thème, sauf si y a une demande particulière, mais déjà les jeux sont installés sur les tables, on en a 5-6, les enfants ou les adultes viennent et puis ils essayent les jeux, on fait tourner sur les différentes tables. C'est ce qui est le plus simple quand on accueille un groupe qui vient sur une heure parce que okay. Si on laisse les gens choisir les jeux qu'on doit expliquer, voilà, c'est ouais. Juste très compliqué.
Ah, sur une heure, c'est super court en fait, quoi.
Ouais, ouais. Ben après, quand on reçoit des enfants de 4 ans, de toute manière, la concentration, c'est 45 minutes. Donc, ils vont faire des jeux qui durent 10 minutes, et puis ils vont faire 4 petits jeux de 10 minutes, et puis voilà, quoi.
Okay. Moi, je suis instit enfin prof des écoles, et du coup, je m'interroge. Tu peux développer un peu les partenariats? Ça se passe comment? C'est des projets menés avec les enseignants, avec le directeur, la directrice, l'inspection. C'est qui vos contacts?
Pour l'éducation nationale, c'est un peu tout le monde. Il y a des écoles qui nous contactent vraiment pour un projet d'école où on va intervenir dans toute l'école. Alors souvent, on demande que ce soit plutôt eux qui se déplacent dans le lieu, parce que voilà, on a déjà un lieu qui est assez intéressant. On a 200 mètres carrés de jeu. On aime bien que les familles, quoi, que les enfants puissent venir. Donc souvent, quand ils viennent avec les écoles, il y a les parents qui les accompagnent. Donc ça permet aussi à la population de découvrir le lieu et de revenir après s'inscrire en famille. Au niveau des écoles, il y a des écoles qui vont venir une fois dans l'année pour faire découvrir la ludothèque. Il y a des écoles qui vont venir une fois par mois parce qu'ils ont vraiment un projet sur le jeu et qui veulent faire jouer régulièrement les enfants. On prête aussi des jeux. Donc,
est-ce que ça rentre dans les créneaux extrascolaires là, les, je sais plus comment on appelle ça.
Chez nous, ça s'appelle les TAP, les temps d'activité périscolaire.
Périscolaire.
On
dans tes mains et tout ça.
Voilà, c'est ça. Donc nous, on intervient aussi sur ces temps-là, ouais. Mais qui sont, en tout cas dans notre ville, plutôt gérés par des animateurs.
D'accord.
Donc soit avec des prêts de jeu et des animateurs qu'on va former sur le jeu, d'accord. Soit directement des groupes qui viennent dans la ludothèque pendant ces créneaux-là.
D'accord, ouais. Ouais, donc toi tu n'interviens éventuellement que sur des groupes qui viennent dans la ludothèque. Hein.
En fait, on favorise ça parce que déjà on veut que ça soit une démarche, on a énormément de demandes. Mmh. Donc la première étape quand il y a un partenaire qui veut venir à la ludothèque, c'est qu'on demande à le rencontrer pour justement définir ce qu'ils veulent faire et qu'on mette en place le projet, et après voilà, on favorise le jeu dans la ludothèque.
D'accord, OK.
Mais on se déplace aussi régulièrement dans les écoles pour faire des grandes animations jeux. Ouais. Donc on en a fait 3 dernièrement, c'est vraiment sympa, on arrive avec 60 jeux qu'on répartit, ouais, dans toutes les classes, et on fait jouer toute l'école.
Okay.
Avec en général une vingtaine de parents qui participent, tous les instits, et puis tous les enfants jouent sur la journée, quoi, ou sur la demi-journée. Okay.
Du coup, ton temps de travail, il se découpe comment? Alors, j'imagine les journées en semaine. Du coup, c'est des animations comme ça, éventuellement d'une heure, de groupes qui viennent.
Voilà, c'est
ou,
ça.
Ou donc tu te déplaces dans les écoles.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a un tiers de temps de gestion de collection, un tiers d'accueil de groupe.
Dans la journée, c'est ça?
Non, sur la semaine, et après on a aussi un tiers du temps où on accueille nos adhérents.
D'accord.
Moi je reviendrai sur la gestion de la ludothèque. Nous on a une médiathèque qui fait aussi qui prête aussi des jeux, et ils recomptent toutes les pièces à chaque fois qu'on rend un jeu. Est-ce que c'est pas trop chiant de faire ça, de compter toutes
Alors
les
moi
pièces?
Je recompte pas tout. Alors bon,
aïe, aïe, aïe.
Parce que l'avantage
quand tu empruntes un Small World et que tu les vois recompter toutes les pièces, tu te dis ouais, si jamais ils me font chier, je l'emprunte toutes les semaines, je le rends toutes les semaines.
Bah, en fait, il y a autant de ludothèques que de manières de faire. Moi, je m'en suis rendu compte en faisant les formations. Déjà, souvent, alors t'as des ludothèques qui sont municipales, d'autres associatives. Quand c'est municipal, t'as des villes, surtout dans le Nord, où ça fait partie du service culturel. Donc souvent, c'est dans les médiathèques. T'as des villes où c'est de la petite enfance, donc ça va vraiment s'arrêter à l'enfance. À enfant ou petit enfant, à la jeunesse. Nous, dans la ville où je travaille, on fait partie des centres sociaux, c'est-à-dire que on s'adresse vraiment à un public familial, et donc le jeu est considéré pour tous. Mais déjà, il y a vraiment une décision politique à ce niveau-là. Et après, dans la manière de gérer la ludothèque, effectivement, il y a des ludothèques qui font énormément de prêts et qui sont obligés de regarder tous les jeux un par un. Donc, tu as des systèmes de balance où tu peux peser le jeu pour savoir s'il manque des choses. Bon, moi, j'en ai pas besoin parce que je prête pas autant.
À l'œil, tu ouvres la boîte et tu dis ah là, il manque voilà. un sou. De...
Non, en fait, comme je connais bien la plupart des jeux, je vérifie si le jeu est jouable. Mmh. Voilà. S'il manque une carte à un jeu.
Ouais,
je sais pas, il y a certains jeux de cartes.
Manque une pièce sur un jeu où il y a 500 pièces.
Fantasy, il manque une carte, le jeu est quand même jouable. C'est pas catastrophique. un jeu où il manque le dé, bon, bah, je vais le remplacer. Donc, on vérifie qu'il y a bien la règle, parce que c'est souvent les règles du jeu qui se perdent.
Ouais.
Et après, on fait un nettoyage et un comptage rapide et optimisé, parce que si on perd autant de temps à compter ou à plastifier, c'est, ouais, c'est juste pas la
et,
peine.
Et justement, quand il manque du matériel, vous faites comment pour le remplacement? Vous avez, vous, un fonds où vous appelez les éditeurs?
Alors, on a un stock de pièces détachées où on garde toutes les jeux qu'on va jeter, on garde tout ce qui est utilisable pour d'autres. Donc tout est bien tout rangé dans des petits sachets accrochés sur un fil par ordre alphabétique. Et bah, quand je peux, je remplace. Sinon, bah, je contacte les services
des éditeurs.
Voilà, ça veut... qui sont plus ou moins efficaces. Donc on peut dire merci à Gigamic.
Ouais,
Gigamic, je perds une pièce, je leur dis la pièce est perdue, je la récupère tout de suite.
Et à qui on dit pas merci?
Alors on dit pas merci à Asmodée, donc j'attends toujours les diamants de Mafia de Cuba que j'ai acheté et dans lequel il manquait des diamants. On les a même pas perdus pour le coup. Ouais. Donc
pourtant, j'ai déjà eu un de soucis dans des jeux, j'ai jamais eu de problème avec eux.
Bah, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à traiter, que ça dépend sur quoi tu tombes, mais. En tout cas,
c'est un podcast, quoi. C'est normal.
La maison des jeux de trappe attend toujours ses diamants avec impatience.
Voilà,
j'ai dû voler ceux d'Ascension, donc.
Le message est lancé si Asmodée nous écoute. Si les investisseurs chinois nous écoutent.
Mais en tout cas, pour le coup, des services après-vente Gigamic qui sont vraiment efficaces, quoi.
Et du coup, d'un point de vue de la formation, alors. On sait qu'il y a des formations ludothécaires. Je sais pas toi par où t'es passé. Comment ça a pu évoluer dans les années passées? Est-ce que ça s'est professionnalisé? À quel point? Et puis à quoi ça aboutit finalement? Combien de temps ça dure? Est-ce que vous êtes toujours dans des emplois précaires? Est-ce que c'est plus ou moins stable?
Alors je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en a plus parce que les associations qui s'en occupaient, ont mis la clé sous la porte.
Et il y avait une formation à Lyon, c'est ça?
Il y avait aussi une formation. Alors, il y avait celle-là, mais à Paris, il y avait aussi différentes associations qui s'occupaient de ça. Ça n'existe plus. Après, moi, là où je travaille, moi, j'ai pas une formation de ludothécaire. Les gens avec qui je travaille non plus. On vient de l'animation.
D'accord.
Et par contre, c'est vrai que les formations qu'on peut avoir avec l'ALF, c'est assez intéressant, même si c'est des journées, c'est sur un ou deux jours. Ça permet, c'est plus des échanges d'expérience que des formations.
Et si on revient donc sur, tu parlais de l'emploi du temps, donc du coup, les trois tiers, un tiers gestion de matériel, un tiers.
Un tiers les groupes, et puis dernier tiers, c'est les adhérents. Donc c'est les moments où on est vraiment en accueil libre. C'est-à-dire que là, ça va plus ressembler comme vous allez à la bibliothèque. Donc les enfants. Alors ces moments-là, c'est surtout des enfants qu'on va recevoir. Donc nous, on les accueille seuls à partir de 6 ans. Donc il faut qu'ils soient inscrits. C'est une inscription qui coûte 13 € à l'année pour tous les enfants du même foyer.
Alors vous les accueillez seuls. Ils peuvent venir. Vous prenez l'enfant en charge à 7 ans. Vous prenez
alors on le prend pas en charge parce que c'est une réglementation d'accueil libre. C'est comme quand il va à la bibliothèque. C'est-à-dire qu'il est sous la responsabilité de ses parents, même
donc
si parents ses parents ne sont pas là.
Ah d'accord. Ils peuvent ne pas être là, mais
voilà. Ils peuvent rester seuls à la ludothèque à partir de 6 ans.
Parce que j'avais entendu parler de ludothèque qui accueillait des enfants jusqu'à 12 ans, mais il fallait que les parents soient là, quoi. C'était la volonté de placer aussi le parent face à l'enfant autour du jeu.
En fait, il y a autant de quoi. Chaque ludothèque a des projets vraiment différents. Il y a des ludothèques où ils acceptent pas du tout les enfants seuls. Il y a des ludothèques où c'est à partir de 8 ans, 10 ans, et il y en a même une à Saint-Denis où ils accueillent les enfants seuls à partir de 4 ans. Donc c'est vraiment ça dépend du projet qu'il y a derrière et puis aussi de la volonté politique de la ville. Moi, clairement, dans la ville où je travaille, si on empêche les enfants de venir seuls, on a plus personne.
Tu ne les auras pas, ouais. Voilà.
Alors que, au contraire, en faisant venir les enfants seuls dans un premier temps, on a après les parents qui vont venir derrière, même s'ils seraient pas forcément venus au départ, quoi.
Ah, tout à l'heure, justement, tu parlais de faire ramener le jeu à la maison à travers l'école. Est-ce que ça marche? Est-ce que, à travers l'école, finalement, ça ramène des familles? Je sais pas dans quel milieu social t'évolues. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'enseignants, on voit les familles. Des fois, on essaie de faire transmettre des choses aux familles. Et parfois c'est un peu frustrant parce qu'on voit qu'il n'y a pas de retour, ou bien même avec des centres socioculturels aussi, il y a des choses qui sont mises en place et finalement les familles après ne font pas la démarche d'y aller alors qu'on a essayé de faire quelque chose. Ce qui est frustrant, après on va pas leur jeter la pierre, hein, c'est pas la question. Mais est-ce que ça fonctionne? Tu vois régulièrement des familles qui, parce que l'enfant a vu ça à l'école, ben ils viennent. Moi je pense par exemple, on a une maison des arts, ils y sont allés et puis du coup ils ont offert un abonnement aux familles qui étaient allées. Et finalement, la Maison des Arts dit, ben ouais, mais finalement, il y en a très peu qui viennent. Est-ce que vous avez des retours positifs par rapport à ça?
Oui, on a plutôt des retours assez positifs. C'est vraiment fréquent que lorsqu'une classe vient pour la première fois, surtout quand c'est des écoles qui sont un peu éloignées du lieu où on est, qui connaissent pas la structure. C'est très souvent que la semaine suivante, on a l'enfant qui revient avec ses parents et les parents qui nous disent ils voulaient absolument qu'on vienne. Donc c'est un peu les enfants qui font la communication pour nous. Ils reviennent avec les parents. Après le prêt de jeu, donc moi je suis dans une ville qui est vraiment très populaire. Le prêt de jeu est très faible parce que les familles ont peur que les jeux soient abîmés, que les jeux soient perdus, et du coup ils osent pas emprunter les jeux. Ils préfèrent que les enfants jouent sur place. Donc on prête essentiellement à...
Parce que s'ils sont cassés, vous les faites repayer, c'est pour ça?
Non,
vous êtes méchants.
Pas du tout. On est plutôt cool là-dessus. Moi, j'essaie de rassurer les familles en disant, voilà, s'il y a une pièce qui est perdue, on va la remplacer.
Mais sauf Asmodée.
Voilà, si un jeu qui est perdu, mais prenez quand même un gigamic, on sait jamais.
Mais le pire, c'est que je n'ai pas perdu ces diamants, ils n'y étaient pas quand on a reçu la boîte neuve. Mais les gens ont quand même ont pas forcément la culture d'emprunter le jeu. Donc nous le prêt de jeu est payant, ça coûte 1 € pour prendre un jeu et on peut le garder pendant 15 jours. On fait souvent des petits concours, des petits tournois et on fait gagner des cartes de prêt aux enfants. Et du coup, même les enfants qui viennent souvent commencent à prendre maintenant l'habitude d'emprunter des jeux à la maison, font jouer les parents, les frères et sœurs, et ça se met un peu en place, mais c'est pas une...
Tu sens que ça prend un peu, quoi. Ça, voilà. Ça augmente le nombre de prêts.
Mmh, ouais. Alors après, ça dépend vraiment aussi des familles. Nous, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a quelques familles indiennes et la culture du jeu, par exemple, c'est très important. Ils ont tous un carom à la maison. Oui. Et c'est des enfants qui souvent vont prendre des jeux, vont jouer à la maison avec les parents. Après, il y a d'autres milieux où ça se fait beaucoup moins, où le jeu est encore ou tabou, ou vu comme une perte de temps, ou même négatif, quoi. Ça
ouais,
dépend.
Ou pas utilisé, hein. En maternelle, on voit cette différence de statut social avec des gamins de 3-4 ans. Il y en a, ils arrivent, ils savent lancer les dés, ils avancent les pions 2 par 2, voire 5 par 5, parce qu'ils ont cette habitude-là à la maison. Et puis il y en a, à 4 ou 5 ans, on leur donne un dé, ils le regardent, et puis ils savent pas quoi en faire, ils le jettent pas, ils le prennent
entre
deux doigts.
Ils le mettent en bouche,
c'est
voilà.
Ça, ou ailleurs. Mais,
et ça n'engage que toi.
Ça n'engage que moi. Et les parents. Mais, et du coup, au niveau de l'adhésion, alors ça comprend quoi en fait l'adhésion? Tu parlais de la carte de prêt, etc. Et c'est
alors, quand,
13 euros
quand,
l'année, c'est ça tu disais?
Voilà,
donc
c'est
on
ça.
On est loin des 24 euros les deux mois avec.
Donc en fait, quand on est adhérent, alors le prêt de jeu c'est en plus. Hein, quand on est adhérent, on paye 13 €. Donc ça comprend les parents et puis les enfants, quel que soit le nombre d'enfants qu'il y a dans la famille.
Ah, c'est pour la famille, oui.
13 €, c'est pour la famille à l'année. Et on est ouvert en fait le... Combien d'heures on est ouvert? On est ouvert une quinzaine d'heures, je pense, sur la
fonctionnaire,
semaine.
Fonctionnaire, donc 10h midi, 14h, 16h.
Non.
Comme la poste.
Et c'est un fonctionnaire qui le dit, hein. Comme quoi, c'est vrai. Hein.
On est ouvert le mardi et le jeudi de 16h30 à 19h, mercredi après-midi et samedi après-midi. Donc, on est ouvert tous les samedis après-midi. Après, pendant les vacances scolaires, on est ouvert tous les jours.
Attends, on est samedi après-midi, là. Qu'est-ce que tu fais?
Eh ben, mes collègues travaillent et j'ai pris ma journée pour être avec vous.
Mais il y aura pas de lecture de règles aujourd'hui.
Mais là, voilà, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne pourront pas jouer à Crossmaster ni au Pokémon. Donc, ils vont dire, vous attendez Peggy. Ah. Et on verra ça la semaine prochaine. Mais.
Ah, c'est intéressant, ça. C'est des jeux très populaires, ça. Qu'est-ce qui est populaire en ludothèque?
Alors, un des jeux qui est joué vraiment toutes les semaines, c'est le Ligretto.
Ah ouais?
Le Uno, voilà.
Le double, ça marche bien, ça, non?
Le double est énormément joué aussi. Après, c'est par période, en fait.
Léon de Saint-Otonica.
Dès 4 ans.
Non, mais j'ai des enfants de 8 ans qui jouent à Agricola.
Quand même.
Non, en ce moment, c'est plutôt du Mafia de Cuba. Et puis pour les enfants qui
sans
jouent
diamant.
À des jeux. Si, si, on a mis ceux d'Ascension dedans.
Donc, en fait, vous volez déjà dès le début, quoi. Vous avez commencé, vous prêtez le jeu, vous avez volé des choses dans un autre jeu. Pour, vous les mettez directement devant le fait accompli.
C'est ce que t'apprends aux enfants, c'est bon. Et en ce moment, c'est les Pokémon qui sont à la mode parce que j'ai récupéré plusieurs decks, donc.
Mais alors là, du coup, ça va être un gouffre financier derrière pour les parents. Et tu m'étonnes. 13€ l'adhésion à l'année, et puis derrière, il y en a pour 100€ de cartes Pokémon par mois.
Non, non, parce qu'on joue avec les Pokémon de la ludothèque, mais ils ont très peur quand je les regarde parce qu'il faut qu'elles soient bien triées, donc.
Ah, on a un petit intermède.
Breaking news. On remercie, Blue Blue, Monsieur Blue maintenant. Qui nous apporte de l'eau parce qu'il fait très chaud et on a très soif.
Merci. Il faut dire qu'il garde les bières pour lui. Merci.
On a le droit qu'à l'eau, mais bon, on va faire avec. Merci, Monsieur Blu.
Et j'avais une question sur cette adhésion, sur les services proposés. C'est quelque chose qui est régulé au niveau national, régional, départemental, ou c'est chaque ludothèque qui fait
Moi, je travaille dans une ludothèque municipale, donc c'est voté par le conseil municipal de la ville. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque association ou à chaque ville. Il n'y a pas de règles et ça va vraiment de tout au tout. C'est comme dans les bibliothèques, si tu veux. Les tarifs sont vraiment très différents. Je sais que dans le nord de la France, le prêt de jeu est souvent gratuit et j'avais fait des formations avec des ludothécaires qui s'arrachaient un peu les cheveux parce que comme le prêt de jeu est gratuit, ben les enfants viennent le matin, ils prennent 3 jeux, finalement ça leur plaît pas, ils les ramènent 2 heures après pour en reprendre 3 autres et eux ils sont obligés de tout vérifier, les jeux ont pas été joués et ça devient très compliqué quoi.
Ouais. Alors si on essaie de faire un petit parallèle avec Annecy Ludique, donc vous êtes une association basée sur Annecy.
Oui, tout à fait.
Et en revanche, vous n'avez pas d'activité de ludothèque.
Non, alors on est dans une MJC, donc on a une salle dans la MJC, qui elle possède une ludothèque. Donc eux font le prêt de jeu, ils expliquent les jeux. Et nous, en fait, on a une armoire avec des jeux à disposition.
MJC, mais... maison des jeunes communistes ou
Maison des jeunes et de la culture, a priori. Et du coup, nous, on met les jeux à disposition pour les soirées jeux, mais on ne les prête pas, en fait. On fait pas ludothèque.
Ouais, d'accord. Et, en revanche, vous avez une activité, alors c'est une fois par an, où vous présentez les jeux à Cannes.
C'est ça, ouais.
Les jeux de la sélection de l'As d'Or. Mmh. Vous faites d'autres présentations dans l'année? Non, c'est la seule?
Non, en fait, on a d'autres festivals qui se déroulent, sur Annecy et aux alentours, notamment là, par exemple, c'est au mois de mai, à la fin du mois, là, on a un festival qui s'appelle Ludilac, donc qui dure sur une semaine. Mmh. Donc c'est pas une semaine non-stop, c'est plein d'événements ponctuels en fait, dont une ouverture en plein air où nous on va avoir un stand où on va faire jouer des jeux, donc plutôt des jeux familiaux, des jeux en bois puisqu'on est en extérieur, donc le Molki, etc.
D'accord.
Et puis, donc on explique. Et ensuite, en juillet, on a un autre festival qui est en extérieur encore, sur Thônes, qui dure 2 jours, lui, par contre. Donc c'est toute la journée, donc 2 jours de suite. Et donc pareil, on explique encore des jeux. Donc là, on est plus ciblé sur du jeu familial.
D'accord. Encore vraiment. Et Peggy, vous avez ça, des jeux en bois, des jeux d'extérieur? Vous faites ça?
Oui, oui, on a beaucoup de grands jeux aussi qui nous servent principalement pour prêter à des associations ou à des écoles pour des kermesses. Ouais. Donc on prête aussi à tous ces jeux-là. Et puis l'été, en fait, dans la ville où je travaille, on a une animation aussi en extérieur où on utilise pas mal tous ces jeux.
Ah, d'accord, ok. Alors, si on parle de l'aspect présentation d'un jeu, enfin explication des règles, comment ça se passe dans une ludothèque? Alors déjà, le choix dans une ludothèque, j'imagine que il y a des âges quand même très variés. Donc tu disais que tu reçois des fois des groupes d'enfants seuls. Donc du coup là, c'est vous qui les prenez en charge, vous leur expliquez le jeu. Il y a des méthodes vraiment. Est-ce qu'on explique un jeu de la même façon à un enfant de même, je veux dire, 8 ans qu'à un groupe peut-être un peu plus âgé le même jeu? Vous allez l'expliquer pareil ou pas?
Non, ça dépend. Après, même un enfant de 8 ans. Même un enfant de 8 ans, ça dépend lequel, s'il a l'habitude de jouer ou pas. Alors déjà, première chose, les gens ne lisent pas les règles.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment un frein. Deuxième chose, les règles sont très mal écrites, y compris dans les jeux pour les petits. Y a des règles de jeu de 4 ans où la règle fait 5 pages avec des fautes à tous les mots, où on a l'impression que ça a été traduit par...
C'est des jeux Queen Game, c'est ça.
Je pourrais vous envoyer des photos.
C'est des jeux gigamiques.
Ça m'arrive souvent d'être obligée de lire la règle en anglais pour des jeux vraiment pour des petits, parce que c'est incompréhensible alors que c'est des jeux très simples.
Ouais, je suis assez surpris. Moi, j'avoue que c'est pas forcément la catégorie de jeu que je joue beaucoup encore, enfin pour le moment en tout cas.
Et puis tu as l'habitude de lire aussi les règles, mais déjà les gens, quand tu leur parles de défausse ou de quoi, il y a plein de termes qui sont propres au jeu que les gens ne connaissent pas.
Ouais.
Un enfant, tu lui dis jette un dé, il prend le dé et te le lance à travers la pièce. Si tu lui dis jette le dé, il lance le dé.
Donc il a fait ce que tu lui demandais.
Voilà, si tu lui montres pas le geste et qu'il l'a jamais fait, il sait pas le faire.
Ouais.
Comme déplacer un pion, ce que disait Flavien, c'est que tous les enfants comptent en la case où ils sont en disant 1.
Ouais, d'accord. Ouais.
Donc ça, c'est c'est les premiers apprentissages. Donc de toute manière. Ça fait 4 ans que je travaille dans la ludothèque. Les jeux que je n'ai pas montrés moi-même, en gros, ne sont pas joués.
D'accord.
Comme je suis la seule à lire toutes les règles et à les montrer aux autres, si je montre pas les jeux à mes collègues qui vont les montrer après aux enfants ou directement aux enfants, Donc il faut vraiment.
Donc si toi tu te trompes en lisant une règle, dans tout le secteur on va jouer avec les mauvaises règles. T'as quand même une grande responsabilité.
Ouais. C'est pire que ça, c'est que même je choisis à quoi on joue, parce que les jeux que j'aime pas. Moi j'ai pas réussi à me débarrasser du Monopoly, mais bon, ils jouent toujours pas avec la bonne règle puisque je la lis pas. Et c'est vrai que. Il suffit de s'installer à une table avec le jeu et puis les enfants viennent tout de suite jouer. Ils ont besoin qu'on leur explique les règles, quoi. Et même des adultes, hein. La lecture de la règle, c'est vraiment une grosse difficulté. Donc il y a beaucoup de gens qui se servent des vidéos d'explication.
J'allais dire ça. On le retrouve même quand tu fais jouer des amis ou quoi dans une. Dans ton cercle d'amis, si tu fais jouer des gens. Enfin, moi, je sais qu'il y a des gens qui achètent des jeux et qui me disent, tiens, Thibaut, explique-moi le jeu. Ouais. Lis les règles, explique-moi le jeu. Donc, au bout d'un moment, je pense que quand tu le dis, tu lis des règles, tu expliques des règles, en fait, les gens vont plus s'embêter. Ils vont te demander à toi, quoi.
D'ailleurs, enfin, t'as fait que ça tout le week-end. Oh, s'il te plaît, explique-moi les règles.
Mais même moi, je lui ai dit, parce que quand on a joué tous les deux, j'ai dit non, je travaille pas, c'est toi qui lis les règles.
Ah oui, et d'ailleurs, c'était dégueulasse.
Tu trouves ça vraiment pénible maintenant, du coup? Enfin, le fait que ce soit ton métier, est-ce que...
En fait, maintenant, j'ai un autre travers, c'est que j'arrive pas à jouer un jeu si j'ai pas lu la règle. C'est-à-dire qu'on m'explique le jeu. Non, c'est pas que j'ai pas confiance, c'est que je le comprends moins bien si j'ai pas lu moi-même la règle. Et souvent, j'ai besoin de relire la règle pour que ça imprime mon esprit, je sais pas, mais voilà, l'habitude de lire les règles fait que...
Mémoire visuelle,
d'accord.
Ouais.
Je voulais vous demander, Franck et Thibaut, vous avez déjà vu ça sur un festival, le gamin, vous lui dites « jette un dé » ça ou d'autres exemples du même type. Hein.
Alors, il faut dire que Franck et moi, on n'est pas très beaux. Du coup, en général, les enfants, ils ont très peur. Donc, quand ils nous voient qu'on leur dit « jette un dé », on regarde la table et ils s'exécutent, ils jettent sur la table. Hein, souvent.
Et ils le font à la poubelle, allez.
Ouais.
Non mais effectivement, est-ce que le public, vous rencontrez sur les festivals du public comme ça qui pas très habitué au jeu, enfin j'imagine que c'est plutôt des gens déjà joueurs qui viennent sur des festivals et pas comme dans une ludothèque ça va être des activités un peu
à Cannes pas forcément je pense.
En fait à Cannes justement j'ai trouvé que les gens étaient juste plutôt joueurs. Déjà, tu sentais qu'il y avait, il y avait une culture du jeu quand même. C'est pas toujours, il y a plusieurs niveaux, on va dire, mais en général, ils savent un peu de quoi ils parlent. Enfin, ils savent ce qu'ils sont venus chercher en tout cas. Surtout cette année avec le plan Vigipirate, hein. Approximativement 3 heures d'attente pour rentrer dans le festival. L'année dernière, c'était moins le cas. Enfin, l'année dernière, c'est vrai que c'était peut-être plus.
Les gens ils passaient devant, ils disent oh mais tiens c'est ouvert, on va rentrer, il fait un peu frais.
Voilà. Ils font aussi ça dans le stand des fois, ils passent et puis ils font que passer parce que justement quand ils se disent en gros oulala j'ai pas le niveau, je me casse. Il y a des fois ça peut faire peur rien que je sais pas le matériel des fois ou une boîte de jeu des fois ils regardent et tu les vois hocher la tête genre non c'est pas bon nous vas-y trace
ce que tu dis c'est fou, c'est ce que disait aussi Peggy dans on se sent pas le droit d'emprunter un jeu parce que c'est pas on se sent pas encore le niveau. c'est presque comme si le jeu de société, alors parfois c'est vu comme un truc pour les enfants, pour voilà, qui est pas pour adultes, et là ça fait presque truc un peu élitiste. On se sent pas le droit parce que on va pas savoir lire les règles, parce qu'on a peur de tout perdre. Alors qu'on pourrait se dire que c'est les personnes qui veulent pas les prêter parce qu'on a peur qu'ils perdent notre matériel. Et là, ce que tu dis, c'est pareil, c'est on passe et puis finalement, ah non, moi j'ai pas le niveau. C'est presque triste comme perspective.
Moi, je trouve ça très triste parce que un jeu est très simple puisque c'est un jeu.
Oui, mais des fois, ça peut faire peur si t'as 50 000 cubes de différentes couleurs, des jetons, des tuiles. Il va y avoir beaucoup de règles.
C'est vraiment un apprentissage en fait. Le jeu, tu commences à jouer à des jeux, on va dire un petit peu simples, enfin avec des règles simples qui sont pas pour autant simplistes ou.
Et puis après des vrais jeux.
Et après, tu commences à jouer avec des vrais jeux. Donc déjà tout l'améritrage tu y mets de côté. Non, je plaisante.
Je ne suis pas d'accord.
On va dire tu commences mollo. Tu vois, il y a des jeux, par exemple tout à l'heure tu parlais de Small World. Moi, Small World, c'est un jeu que je sors très souvent avec des amis ou des gens que je sais qu'ils ne savent pas enfin, ils n'ont pas l'habitude de jouer. Je sors Small World. Et en gros, ben ça fait le tri parce qu'en général, tu vois ceux qui ont envie de jouer ou ceux qui en fait ils vont jouer puis ils vont pas s'investir. Du coup, tu dis bon, eux c'est pas la peine, je vais pas les refaire rejouer, tu vois.
Ouais, c'est un peu les talons et tu sens où ceux où il leur manque un palier où ils peuvent encore aller beaucoup plus loin et d'autres où c'est déjà quasiment la limite haute et ils disent non, on va pas réussir plus.
C'est exactement
quoi.
Ça.
C'est les passerelles.
Voilà. Ouais. Je ferai un parallèle en fait avec ce que tu disais tout à l'heure, il y a une notion de vocabulaire dans les règles qui est pas forcément acquise pour tout le monde. Il y a une notion de compétence, je pense, en fait, sur les jeux. Et
ne serait-ce que savoir lire le français. Moi, dans la ville où je travaille, il y a une forte population étrangère. Les gens savent pas forcément lire, et ça les impressionne de voir le matériel. Ou quand on va inviter les gens à la table, ils vont dire non, mais je ne sais pas. Alors moi, maintenant, je fais attention à ce que tu disais, Thibaut, de ne plus dire « c'est simple ». Parce que si on dit à quelqu'un « c'est simple » et qu'il arrive et qu'il comprend pas,
il va
se retrouver en grande difficulté.
Bah, tu lui dis « t'es con ».
Moi, c'est ce que je fais. Merci, Flavia.
Forcément, la personne, c'est ce qu'elle ressent. Elle n'a pas compris, on lui a dit que c'était simple.
Au contraire, souvent, je dis « voilà, vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris. On va jouer, je vais vous aider et puis on fera au fur et à mesure. » Mais au début, je disais « c'est simple » et puis...
Vu que Franck et moi on n'est pas beaux, ben les gens ils comprennent quand on leur explique parce qu'après ils ont peur de nous demander. Donc ils sont très attentifs. Soyez moches, jouez au jeu.
Faudra des photos là parce que t'arrêtes pas de dire que vous êtes moches.
Alors j'ai des photos mais je ne sais pas si il va être d'accord pour qu'on les publie.
Alors je veux pas qu'on parle de mon châle. Ah.
Ce qui se passe au week-end proxy jeu, tout ça, hein, d'accord. Non mais en dehors de ça, je pense que c'est là qu'on va trouver une utilité en fait aux associations et aux ludothèques. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens vont débuter le jeu, ils vont avoir besoin de conseils. Et c'est là que c'est important, c'est de les guider. C'est-à-dire leur donner le jeu qui va être adapté en fait au niveau qu'ils ont déjà.
Mais effectivement, c'est pas facile quand tu as des nouveaux joueurs qui arrivent la première fois. Comment tu sais, tu leur poses des questions, tu leur dis, vous avez déjà jeté un dé, vous avez déjà...
Délit de faciès, obligé.
S'il a les cheveux longs, tu lui dis, ah, toi, t'as l'air d'être un geek. Et
surtout avec une barbe.
S'il a un t-shirt geek, tu lui dis, ah, bon, on peut aller tout de suite dans le jeu haut de gamme.
Alors, faut se méfier.
nous, dans le milieu scolaire, on a ce qu'on appelle, dans le jargon, une évaluation diagnostique. Il faut pas mettre l'élève en situation d'échec, mais en même temps, faut quand même voir où il en est. Du coup, tu fais une première évaluation pour voir où il en est et comment tu vas pouvoir évoluer. Et chacun a un diagnostic différent. Je suppose que il y a de ça. Donc, c'est ce que tu disais par rapport au niveau. Tu le fais tester, par exemple, Small World, ou tu le fais tester, un Mafia de Cuba sans diamant. Et du coup, tu vois comment il réagit. Alors peut-être que c'est tout simplement pas son type de jeu. Peut-être que c'est juste qu'il faut expliquer autrement. Parfois, on a aussi des animateurs qui.
En général, moi, quand il y a quelqu'un qui arrive et que je vois qu'il veut jouer, donc bon, sur un salon, c'est souvent le cas, je lui demande le dernier jeu auquel il a joué.
Ouais.
S'il cherche 5 plombes et puis qu'il me dit le Uno, par exemple, je sais que je vais pas lui proposer de jouer à Hansa Teutonica, par exemple.
Ouais, effectivement.
S'il réfléchit un peu, qu'il fait Dungeon Lord, là, je peux sortir Hansa Teutonica ou The Galleryst pour nous.
Et puis,
le jeu de chevalier.
Après,
ouais, c'est ça.
On apprend aussi. Quoi, moi, je sais que là, ça fait 4 ans que je suis en ludothèque. La première année, je me revois en train d'expliquer les aventuriers du rail pendant un quart d'heure à un groupe de personnes et que les gens me disent « Bon, on joue maintenant, ils sont où les dés ?» Et là, je me suis dit « Bon, là, ça va être compliqué, la partie va être longue. »
Et du coup, depuis, tu commences par « Il n'y a pas de dés dans ce jeu, hein, c'est normal. »
En fait, il faut mettre un dé au moins dans toutes les boîtes, juste pour rassurer les gens. Voilà.
Mais on a toujours un con comme ça à la table qui dit « Ah ouais ah, ?» et qui se plante tout le temps et il n'a pas compris. Et on commence, qu'est-ce que je fais ?
On avait dit que ce qui se passait à Proxy Jeux
restait au week-end. J'ai pas cité de nom.
Mais pour le cas, c'était plutôt moi qui avais mal évalué le jeu. Était vraiment trop compliqué pour le groupe de personnes qui n'avaient pas l'habitude de jouer. Et du coup, après, j'ai réajusté.
Ça m'est déjà arrivé avec des non-joueurs de leur faire jouer. Et c'était à Novembre Rouge. Et en fait, Novembre Rouge, c'est un dé que tu lances à la fin de ton tour pour voir si tu réussis. Mais il y en a certains, le réflexe, il commence son tour, il prend le dé, il le jette. Je dis non, faut d'abord terminer ce que tu fais avant. C'est le réflexe, tu commences ton tour, tu jettes le dé. Quoi. C'est le réflexe.
À Marrakech, c'est pareil, il faut tourner le personnage avant de lancer le dé. Et c'est très, très dur pour les gens.
Ouais. Tu vois la différence ? Elle dit lancer le dé. Toi, tu dis tu le jettes. Tu vois.
Ah, c'est subtil, tu mais peux c'est le... important.
Alors, il y a juste une notion de force hein, entre lancer et jeter, je pense. Ouais.
Mais avec mes petits bras, c'est pareil.
Et tu utilises à peu près tu utilises même le même genre de méthode que Thibault. Alors, tu demandes aux gens à quoi ils ont déjà joué.
Oui, après, en général, je fais un peu un tour avec eux. Alors, à la ludothèque, les jeux sont rangés par âge. Alors, c'est pratique.
Coup, tu les fais aller de gauche à droite. Là, je connais plus.
Alors après, il y a une autre difficulté, c'est que quand on a affaire à des adultes et qu'on leur propose le rayon 8 ans, il y en a qui le prennent mal.
Ouais, non mais c'est une bonne remarque parce que c'est vrai que enfin voilà, même quand on, je sais pas vous, quand vous dites autour de vous que vous jouez, les gens ils peuvent trouver effectivement que c'est un loisir un peu
enfantin. Qu'on a 8 ans. Ouais.
Et effectivement quand tu sors une boîte à partir de 8 ans, ils te font mais effectivement c'est un truc pour les gamins quoi.
Ouais, mais une fois que tu leur as mis un score de 100 à 2, ils disent ah ouais bah en fait il y a un autre niveau de jeu quoi.
Et puis dans les 8 ans, bon, voilà, Carcassonne, The Loreto, Small World sont rangés dans les 8 ans. Donc,
ouais, bien sûr,
mais les enfants hein, quand on fait la visite de la ludothèque et qu'ils me disent bon ben moi j'ai 10 ans, je vais aller dans le rayon 10 ans, je dis ben on va commencer par les jeux 6 ans hein, et puis parce que plus ça va plus la règle est compliquée, donc après c'est vrai que trouver le jeu adapté à la bonne personne, pour moi c'est un plaisir. Une personne qui vient emprunter un jeu, il dit voilà je voudrais jouer mais je sais pas à quoi, ben comme Thibaut j'ai l'impression de mener un peu une enquête, poser des questions, ben à quoi t'aimes jouer. Après je sors plusieurs boîtes, j'ouvre la boîte, je regarde sa tête.
Ça c'est un facteur déterminant.
Voilà. Si le thème non mais j'aime pas trop les orques et les machins, ok on va passer à autre chose. Je vois si la personne est sensible au thème et puis quel matériel elle a envie de toucher, de jouer. Et puis quand je lui prête et qu'elle revient, elle me dit ah ben ça c'était vraiment bien. Est-ce que tu peux me conseiller autre chose ? Ben ça, voilà, ça fait plaisir parce qu'on a l'impression d'avoir bien répondu à une demande et puis que les gens ont pris du plaisir quoi.
Et le niveau 2 de ça, c'est de proposer un jeu de rôle, je crois.
Alors avec les enfants ça marche très bien, avec les adultes c'est plus compliqué.
Et du coup tu parlais des âges, on sait que les âges sur les boîtes sont parfois un peu absurdes, que ce soit on met 14+ parce que comme ça on fait pas de test matériel aux États-Unis, ou bien on met 10+ mais après dans les vidéos ils disent mais on peut y jouer à partir de 8 ans. Du coup les âges dont tu parles, c'est des âges que vous estimez ou c'est des âges vous prenez ceux sur les boîtes ?
Alors en général je prends ceux sur les boîtes, mais il y a des boîtes que je déplace parce que là je m'énerve ou que voilà ça correspond pas. Et puis les enfants habitués ont le droit. Alors il y a des enfants de 8 ans qui ont le droit d'aller prendre dans les jeux adultes. Alors ils friment un peu auprès des autres parce que eux ils ont le droit, ils ont eu l'explication. Donc voilà, la plupart des habitués savent à peu près le niveau dans lequel ils veulent taper quoi.
Et pourquoi vous faites pourquoi vous gardez ce classement par âge alors du coup si au final
parce que quand tu as un enfant de 4 ans qui te déballe tout Agricola, après c'est compliqué de retrouver tous les cubes. Donc
ouais,
les enfants,
il y a des jolis petits moutons.
Voilà, c'est ça. Et quand ils commencent à jouer avec en les mélangeant avec les Lego, ça peut être un peu compliqué. Donc déjà les enfants ont pas le droit de prendre des catégories de jeux au-dessus de leur âge. Ouais. Voilà, déjà ça permet d'éviter pour le rangement que tout le monde sorte des boîtes auxquelles ils pourront pas jouer de toutes les manières.
Mais est-ce que par exemple un système comme je sais pas les ceintures au judo par exemple, ça pourrait pas être un peu moins discriminant par rapport à l'âge?
Alors j'ai 700 moins... adhérents. Plus les groupes qui viennent, on a en moyenne 50 ouais. personnes qui viennent par jour. Si ouais, à chaque fois je dois ça faire passer,
ça fait beaucoup voilà. de ceintures à avoir.
c'est juste pas possible.
Moi je suis agricola deuxième dan.
C'est quand même un facteur.
Moi j'ai redoublé mon Pokémon.
Voilà. Non mais c'est quand même un premier.
Je te la piquerai celle-là, désolé.
Ouais, c'est quand même un facteur de choix déjà l'âge en fait. Tu regardes quand même l'âge des enfants pour
savoir. Alors déjà, il y a aussi souvent le fait de savoir lire ou pas.
Ouais.
En fait, nous, voilà, on a les catégories moins de 6 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans et adultes.
D'accord.
Après, ça dépend des ludothèques. Hein. Il y a plein de ludothèques oui, que je suis allée visiter où un jeu à partir de 8 ans, c'est adulte. Donc, ouais. un Carcassonne va être réservé aux adultes.
Ouais. Donc là, pour le coup, limite, c'est pour pas... Les limites pour pas vexer l'adulte qui joue à un jeu de 8 ans.
Bah c'est surtout parce que souvent les autres collègues ludothécaires connaissent déjà pas les jeux quoi.
Et après dans les classes d'âge, j'espère que tout est trié par ordre alphabétique.
Pas du tout. Par c'est, couleur c'est de boîte, parce que c'est plus joli.
Il y a un classement quand même.
Il y a un classement comme les livres ou pas forcément comme il y en a pas tant que ça et alors, tu les retrouves.
Il y a
ou...
des classements très très compliqués qui existent. Il y a le système ESAR où tu peux ranger les jeux. Alors t'as les jeux de construction, les jeux de lettres. Alors je connais pas parce que moi je l'utilise pas. Je trouve ça beaucoup trop compliqué. Voilà, nous on a les étagères par âge. En général, je les range à peu près les jeux qui vont ensemble, mais ils ont pas une place fixe, quoi.
Donc c'est pas à trier par hauteur ou par
Non.
par couleur,
ouais.
Et est-ce qu'ils sont rangés? Moi, j'arrive à jouer au Feld.
Sur la tranche ou à plat?
Ah non, à plat. Bien sûr, à plat.
Mais c'est laid.
Non mais je valide.
Si on repasse sur Thibaut et Franck, quand vous expliquez pour les règles pour l'Asdor, comment vous apprenez les règles? On vous les donne avant ou les jeux ou c'est à vous de les acheter ou...
On dit en avance, c'est Colt Express qui va avoir l'Asdor, alors apprenez bien les règles.
Alors donc en fait nous la liste des jeux nommés, on la connaît en même temps que tout le monde.
Ouais.
C'est-à-dire que quand elle est rendue publique, nous on a la liste.
Ouais. Bon, ça, on l'a quand même pas mal à l'avance. C'est quoi? C'est un mois?
Ouais, bien sûr, un mois. Ouais. Ouais. Alors, quand il y a 9 jeux à connaître et à expliquer et que nous, on essaie d'avoir un petit peu plus d'animateurs que le nombre de jeux.
Ouais.
Et on essaie d'en connaître 2-3 par personne. Donc, ça laisse un petit peu de temps quand même pour les apprendre. On essaye de les connaître vraiment bien pour pouvoir les expliquer, qu'on n'ait pas de points de règle qu'on ne connaisse pas. Et puis, sauf certains, mais toi, tu joues à Mafia de Cuba, c'est bien.
Thibaut n'a pas l'air convaincu par cette explication.
Non, mais Thibaut a présenté Mafia de Cuba, il avait pas beaucoup de règles à lire, en fait.
Est-ce qu'il avait les diamants?
Si
c'est
ça
diamants, la vraie
question.
Alors, j'avais des diamants. J'ai perdu des jetons en cours de partie. Il y a des gens qui sont revenus en me disant.
Bah, c'est normal, il y a des voleurs dans le jeu.
Ouais, non, mais en fait, justement, je faisais
des voleurs honnêtes.
Je leur disais, rendez-moi un petit peu le matériel en partant. Il y en a, donc, au début, je le faisais pas. Et puis, d'un coup, j'ai vu revenir une personne, elle devait avoir une trentaine d'années, la jeune dame, là. Elle revient, puis elle fait, j'ai trouvé ça par terre. Oui. Prends-moi pour un con. Et du coup, pourquoi tu me le ramènes à moi et pas à l'éditeur?
Une belle histoire.
Donc, voilà. C'était vraiment très drôle. Je lui ai dit, merci. Oh, c'est vraiment bien que vous l'ayez ramené à nous.
Après, et, oh, salope.
Non, parce que je ne la connais pas personnellement, donc je ne sais pas ses penchants.
On n'insulte pas les jeunes dames, merci.
Et du coup, vous êtes plusieurs associations à faire ça sur l'Asdor ou c'est exclusivement vous?
Non, sur l'Asdor, il y a que notre association, en fait.
C'est un peu comme une partie de Blood Rage. Il y avait nous, les autres ils sont venus puis on les a pétés.
Donc donc on travaille on est en partenariat avec la boutique Ludo Cortex sur Annecy qui est le partenaire historique qui a le stand de l'Asdor. Et donc il fait appel à nous. Alors donc l'association est créée depuis...
Attends, je suis oublié de Philibert.
Quel corporate.
Et Philibert apparaît.
À Strasbourg.
Et donc l'association a été créée depuis 3 ou 4 ans. Donc nous on anime depuis 3 ou 4 ans, mais on était déjà il y avait déjà des animateurs qui venaient des connaissances de la boutique qui venaient animer.
Quelle boutique tu peux
une autre boutique
J'ai pas dit le nom, hein.
Jamais.
J'ai dit que je dirais une phrase. Donc voilà. Nous, on touche, on n'est pas payé pour ça. On est une association. On fait ça bénévolement. Tous les frais sont pris en charge. On est nourri, logé sur place.
Vous mangez quoi?
On mange ce qu'on peut.
On mange un peu comme ici, en fait. Ah. C'est bon, les pâtes.
ça c'est midi, hein. Ce midi, c'était pas des pâtes.
On mange
bravo,
de la purée.
Non, c'est pas vrai. C'est vraiment très bon.
De la purée plâtre.
C'était Barbucks midi et c'est Dédé qui a fait le Barbucks, entre autres.
C'est spécial dédicace à Eric pour sa purée plâtre.
Il se reconnaîtra.
Okay. Donc voilà, donc on va avec eux et puis on fait l'animation pendant les 3 jours. Alors on essaye d'avoir un petit peu plus d'animateurs que le nombre de jeux, ça c'est histoire de pas monter et de pas profiter quand même un petit peu du festival. Donc ouais. On arrive à laisser une demi-journée à tout le monde pour profiter à un moment du festival.
Enfin, à tout le monde, au moins aux gens qui expliquent le moins bien les règles, ils ont plus de temps pour visiter le festival que ceux qui expliquent très bien les jeux.
Voilà, c'est le principe Blood Rage.
On y revient.
Et du coup, tu disais plus de personnes pour expliquer que de nombre de jeux. Vous êtes que des membres de l'asso ou vous recrutez un peu à l'arrache pour ce type d'événement?
Non, on a que des membres de l'association en fait qui viennent, donc des volontaires.
Recruter à l'arrache juste avant, hein, quand même. Enfin, moi, ça fait 2 ans que je le fais. J'ai été recruté à l'arrache la dernière fois.
T'es recruté à l'arrache chaque année.
Là, cette année, j'y suis allé propre, beau propre, hein, parce qu'il fallait. Mais,
beau?
Bah, non. Propre.
T'avais changé de slip.
Salubre, salubre.
Voilà, juste ça.
Et du coup, quand vous préparez ça, enfin préparez, voilà.
Ah si, on prépare quand même, hein, s'il te plaît.
Et comment est-ce que vous avez des consignes de placement de table, des organisations particulières, des demandes d'éditeurs
Non, alors on n'a pas du tout de contact avec les éditeurs avant le salon. Juste si vous voulez me couper la parole, en fait.
Non, en fait, pendant le salon, des fois, moi, je sais que, en tout cas, j'ai.
Bien dans le micro.
Ouais, pardon. J'ai lui-même qui est, enfin, il est lui-même venu me voir plusieurs fois.
L'éditeur lui-même.
Voilà. Pour que nous.
Toujours, il manque des diamants.
pour que nous discutâmes quelque peu de la manière dont il fallait présenter le jeu. Parce qu'ils ont quand même un petit peu leur mot à dire, mine de rien, même si, enfin. Bon, il y a que lui qui est venu, hein. Mais je crois, il est lui-même très très mondain, c'est pour ça.
Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais...
C'est une explication de deuxième écoute. Je pense,
Donc en fait, ouais, avant le salon, avant la présentation, avant l'ouverture du salon, on n'a pas de contact avec les éditeurs pour. Ouais. Alors cette année, c'était un peu particulier parce qu'on avait des jeux comme Time Stories ou Pandemic Legacy où là les démos
Quel
sont
bon jeu,
particulières.
Pandemic Legacy est quand même bien meilleur. D'ailleurs, la preuve, il a gagné l'As d'Or. Expert, mais
hérésie.
Il y a vraiment un clash. Non, désolé, excusez-nous, je vous coupe. Il faut que je règle un compte.
Et du coup, donc sur le salon, les éditeurs sont à même de passer pour donc ils veulent vérifier si on fait bien le taf. Mais en dehors de ça, non, pas de contact. Et puis nous, on révise les jeux en fait pendant toute la période entre le moment où les nommés sont désignés et le moment du salon. À chaque fois qu'on a une soirée jeu, on sort les jeux entre animateurs et on y
va. On bachote, c'est dégueulasse.
Ça bachote.
Ouais.
Vous faites des fiches de révision.
Alors il y a justement il y a pas mal d'animateurs qui font. Par exemple, pour tout ce qui est marquage de score, choses comme ça, en général, ils font des fiches pacifiées, des choses comme ça. Il y a quand même une préparation qui est pas dégueu. Il faut le dire qu'il y a une préparation qui est pas dégueu.
Mais du coup, bon, c'est comme les éditeurs ou les auteurs qui jouent qu'à leur jeu. Ça devient un peu, ça va, vous êtes pas trop blasé d'un jeu, vous avez un souvenir d'un jeu que vous avez préparé longtemps et qui vous emmerdait à mort.
Mais en même temps, c'est les meilleurs jeux sélectionnés par un jury de professionnels.
Voilà,
donc,
professionnels. Exactement. Comme cette année, par exemple.
50
avec,
fois à la même bouse, quoi.
C'est comme cette année avec 3 jeux experts qui font, finalement, il y en a pas un seul, c'est un jeu à l'allemande, quoi. Enfin bon, après. Voilà. par rapport à la préparation, moi, je trouve ça très drôle parce que l'année dernière, il y a un des animateurs qui a expliqué Deus pendant, je crois, un jour et demi ou 2 jours, alors qu'il n'y avait jamais joué.
Ouais.
Il a vu 20 parties devant ses yeux, mais il n'y avait jamais joué. Et bon, visiblement, j'ai joué avec lui, c'est bon, il connaissait les règles, pas de problème. Donc, quand même,
c'est possible de ne pas avoir joué au jeu et quand même de l'expliquer.
Voilà. Enfin, ça...
Lui, il arrive.
Voilà, il pas... y en a.
C'est pas le top.
Mais c'est quand ils ont des physiques désavantageux. En général, on les écoupe bien, donc toujours pareil.
On avait dit pas le physique. Pas le physique. Non, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur effectivement Time Story et pandémie, parce que vous dites que vous n'avez pas eu de contact avec les éditeurs avant. Effectivement, c'est quand même particulier. Enfin, alors, en fait, Time Stories. Alors, j'oriente exprès la question parce que je sais que j'avais échangé sur Twitter avec Franck et Christian, qui se demandaient est-ce qu'on présente Asylum. Ou est-ce qu'on présente un scénario qu'on fait nous-mêmes, ou le scénario de Trick Track par exemple. Et j'étais surpris de me rendre compte effectivement que la question s'était pas posée avec l'éditeur.
Bah en fait, je crois qu'elle s'est posée.
Ouais, tout à fait. En fait, on est quand même allé à la rencontre de l'éditeur. En fait, on lui a envoyé des mails pour savoir comment eux allaient présenter leur jeu sur leur stand,
ouais.
Pour qu'on ait quand même quelque chose d'assez cohérent avec eux, mm-hmm. et pas non plus aller dévoiler des choses sur le jeu mm-hmm. Qui pourraient être dommageables pour les gens pour leur partie ouais. Par la suite.
Donc, et surtout que derrière ils essaient le jeu, ils fassent la partie, ils achètent voilà. pas le jeu derrière, ils jouent 5 heures, c'est fini quoi.
Et puis... Mais 5 heures qu'ils vivront plus jamais dans leur vie, quelles 5 heures.
Non, mais, ouais, mais ils achèteront pas le jeu, hein, c'est pas valable pour l'éditeur.
Non mais on a aussi la contrainte de temps, c'est-à-dire que sur l'étape de démo, on a Time Stories, on a une boîte de Time Stories qu'on fait tourner, on peut pas faire tourner 5 heures une partie. Donc on a essayé de réduire le temps et on est parti sur le même format qu'eux, c'est-à-dire qu'on jouait XUT en fait. Et,
unité de temps.
Ouais, 8, X unité de temps. Et arrivé à ce moment-là, on disait stop, on arrête, voilà, vous en êtes là. Et maintenant, si vous voulez continuer l'aventure,
la boîte pour,
voilà. Vous pouvez acheter le jeu dans la boutique partenaire, mais on la citera pas.
Voilà.
Il y a pas de souci.
Et pour Pandemic Legacy, on a fait pareil. On a joué un certain temps en fait. On jouait le premier mois en fait.
Ouais. Mais là, vous avez, par exemple, vous avez collé les stickers, vous les décolliez. Comment ça se passait?
Oui, on a collé, décollé les stickers. Donc ouais. Ça se fait plutôt pas mal. Au bout d'un moment, ouais, ça se fait même plutôt très bien. Et le jeu est dans un état lamentable maintenant. Mais en fait, on a eu un plateau plastifié de la part de Philosophia et un pack de cartes d'une carte en fait qui est amenée à être malmenée pendant le jeu en fait pour la remplacer à chaque fois. Mmh. Et non, ils ont été assez fair play sur le truc. Comme ils ont un jeu qui est assez particulier, ils nous ont fourni du matériel pour le présenter.
Pour le présenter, je comprends. Il me semble qu'à Essen, ils avaient un système de feuillets pour remplacer le plateau en fait. Je pense que là, ils avaient beaucoup de stickers, par exemple. Et en fait, c'était des feuillets qu'ils enlevaient, un peu comme on peut voir, ça se fait pour des calendriers, des sous-mains, des choses comme ça.
Essen, ils avaient un plus gros budget, visiblement, parce qu'ils avaient un stand qui était super beau. Non, on avait juste vraiment un plateau plastifié qu'on pouvait essuyer à chaque fois.
Ok.
Vous disiez que vous n'étiez pas dédommagé. Par contre, j'imagine que les boîtes pour vous entraîner, c'est les éditeurs qui les fournissent quand même, ou c'est vous qui les payez de votre poche, de la sauce?
Alors les boîtes pour s'entraîner, on les récupère directement à la boutique. Ils ont des boîtes de démo. Nous, on en a quelques-unes qu'on met dans notre stock. En fait, on a fait des achats de jeux de temps en temps. Mais sinon, c'est les boîtes de démo de la boutique avec laquelle on est partenaire.
Et du coup, juste plus généralement, d'un point de vue, vu que quand même vous promouvoyez.
On fait la promotion.
vous faites la promotion de ces jeux, donc vous faites de la com presque gratuite. Est-ce qu'il y a quelque chose en échange? Si c'est pas un salaire, c'est des boîtes, c'est des réductions, c'est...
Non, alors ouais, en fait, on a
des diamants de Mafia des Kuba.
Voilà, exactement. Alors, on a une boîte de jeux à la fin qu'on se partage à 12.
Chacun un diamant.
Alors oui, c'est celui qui a eu
mon diamant.
Voilà, celui qui a eu son diamant.
Non, on a en fait c'est la boutique qui à la fin du fait après le festival en fait, on fait un repas tous ensemble pendant lequel on joue et on se retrouve et en fait on a un jeu offert.
D'accord. Voilà. Chacun chaque participant, chaque démonstrateur reçoit un jeu en fait.
Reçoit un jeu, ouais.
OK. Alors c'est intéressant parce que c'est pour moi ce sera un débat incomplet hein, mais se pose la question de la professionnalisation du milieu et des démonstrateurs. Il y a eu une polémique je crois l'année dernière justement, c'était Philosophia je crois qui avait mis une annonce sur Trick Track qui cherchait des démonstrateurs. Dedans c'était marqué justement qu'ils rémunéraient en boîte ou je sais plus. Enfin bon voilà, c'est juste interdit en France en fait quoi. je connais une association belge, les Dépunchés, qui font de la prestation. C'est-à-dire que ils sont venus sur le Bruxelles Game Festival. Ils travaillent pour Asmodée, je crois, beaucoup. Et ils vendent leurs services de démonstrateurs.
Ouais, bah, de notre côté, nous, en fait, non, on fait du bénévolat, en fait.
Et du coup, vous auriez pas, vous sentiriez pas légitime pour demander plus parce que c'est de la com, c'est des boîtes qui vont vendre derrière, c'est pour revenir sur Philo, sans aller plus loin, mais pas que Philo, j'imagine. Mais c'est vrai que bon, je pense que ça dépend de la politique de la boîte d'édition, mais certains. C'est non salarié, c'est rémunéré en boîte. Effectivement, t'es logé, nourri, le transport est payé. Mais à un moment, tu fais gagner des sous à l'éditeur. Est-ce que tu mérites pas non plus, même si c'est pas ton boulot, autre chose que juste une boîte et une bouffe?
Ouais. Alors la question peut être légitime, mais nous, on part du principe qu'on est quand même des passionnés, qu'on a envie, en tant qu'association, notre but c'est de promouvoir le jeu. Et enfin, on le fait par passion. Et ça, on cherche pas d'avoir une rétribution pour ça.
En fait, l'idée, enfin, je pense que ce qui est différent par rapport, enfin, ce qui, dans notre cas, c'est pas l'éditeur qui nous donne quelque chose. C'est notre partenaire, c'est la boutique partenaire, en fait. Donc, finalement, si les éditeurs veulent nous donner des choses, moi, pas de problème. Ça me gêne pas. D'accord. Donc ça peut être une bonne bouffe. J'aime bien le whisky aussi.
La bière.
Des jeux. Et puis ouais, non, ça peut être des sous. Il y a pas de problème. Hein. Mais c'est vrai que c'est un partenariat juste avec la boutique qui a elle-même un partenariat avec la. Enfin, c'est avec pas vraiment. C'est pas vraiment légitime. Enfin, moi j'irai pas brailler en fait auprès des éditeurs pour qu'il se passe quelque chose. Maintenant. C'est vrai que, comme tu dis, Flavien, je pense que ça serait assez normal. Parce que c'est vrai que ça fait quand même une pub. Là, il y a certaines personnes, enfin, qu'on a recroisées cette année, des visiteurs, qui sont venus à l'Asdor, enfin, au stand de l'Asdor, là où on présente, en disant, on est venu là, parce que, par exemple, on aime bien qu'un tel ou un tel, comment il explique ou comment elle explique.
Thibaut, il explique trop bien.
Ouais,
plus,
mais il est moche.
Trop beau et tout.
Bon, il est moche, mais il explique bien. Vu qu'il est moche, on comprend bien.
Non, mais la question s'était aussi posée avec Illudic qui avait disparu à un moment. Les éditeurs ont des partenariats avec des blogueurs, mais à un moment, sur Trick Track, ils mettent la main à la poche depuis quelques années, mais, il y a l'impression que c'est la passion. Alors finalement, mais c'est pas que pour les bénévoles. Hein. À un moment, la passion fait pas vivre, quoi. Mais
ouais, mais comme par exemple, Peggy, je pense que tu peux en parler. T'as la passion, d'accord, c'est quelque chose, mais au bout d'un moment, justement, c'est tu t'investis beaucoup, quoi, dedans.
C'est ça. Et à un moment,
donc, il peut peut-être y avoir plus.
Enfin, à un moment, la passion suffit peut-être plus, quoi.
Bah, tu peux travailler pour ta passion. Bon, après, je dis pas que quand je fais 15 parties de Hush Hush, ça me passionne, mais je veux dire, moi, j'adore le jeu, j'ai la chance de travailler dans le milieu du jeu et de pouvoir en vivre parce que c'est pas non plus un métier précaire. Moi, j'ai un poste fixe, je suis fonctionnaire, donc c'est quand même un vrai travail stable, à plein temps. Après l'histoire des éditeurs, moi c'est compliqué. Hein. Après quand on voit Proxy Jeux, c'est pareil. Vous faites du travail de bénévole.
On fait aussi de la pub.
Vous faites aussi de la pub pour certains jeux quand vous les aimez.
Et les éditeurs ne payent pas. Et c'est les boutiques qui mettent la main à la poche. C'est pas les éditeurs.
Voilà. Mais par exemple,
notre partenaire Philibert, bien sûr.
Philibert.
Pour les ludothèques, on voit qu'il y a des éditeurs qui ont conscience de ça. Il y a des éditeurs qui contactent les ludothèques pour offrir des jeux parce qu'ils savent que si on présente un jeu, ça va être des clients potentiels, des gens qui vont découvrir le jeu, qui vont pouvoir l'acheter. Et il y en a d'autres qui sont complètement fermés quand on va leur demander des démos ou des choses. Ça dépend aussi vraiment du choix de chaque éditeur, de ce qu'ils veulent mettre en place.
Les éditeurs.
Et puis peut-être aussi de la culture qu'ils ont chez eux, s'il y a des gens qui ont déjà travaillé en ludothèque ou
Même par rapport aux boutiques, j'en discutais la dernière fois avec Philibert qui nous disait il y a certains éditeurs qui nous envoient des boîtes démo qui peuvent tester et du coup les vendeurs dans la boutique, ils arrivent mieux à le vendre parce qu'ils y ont joué par rapport à un autre où ils ont pas eu de boîte démo et c'est après et c'est pas le même. Et s'ils l'ont pas eu en avance au moment où il sort, ils peuvent l'expliquer que plus tard une fois qu'ils y ont joué quoi.
Bah là c'est du gagnant-gagnant hein, voilà. Et enfin juste je voulais quand même rebondir sur le enfin tu faisais la comparaison avec Proxy Jeux. Enfin je suis pas d'accord, c'est pas vraiment comparable en fait parce que nous ce qu'on fait c'est vraiment voilà, c'est sur notre temps libre, on fait ça sur comme une passion, on a de compte à rendre à personne en fait. Je veux dire, le jour où on a envie d'arrêter, on arrête.
Le jour où on a envie de dire que si. C'est Ludocortex, la boutique de, partenaire de Annecy Ludique, on peut le dire. Tu vois.
Voilà. Ouais. on n'a pas de contraintes. Nous, alors le partenariat qu'on a avec Philibert, en fait, il marche par épisode. Donc, si on saute un mois, peu importe. Voilà, on n'aura juste pas notre sponsoring. Point. Ce qu'ils font, démontrer un jeu sur le salon, voilà, ils ont une demi-journée sur tout le salon de libre. C'est-à-dire que on les contraint quand même le reste du temps à être, à faire un travail. Moi, c'est un travail, et un travail en France, ça se rémunère. Et enfin, pour moi, c'est un débat syndicaliste en fait. Hein. C'est-à-dire que eux, ils vont pas être rémunérés. Il y en a d'autres qui vont l'être. Quelque part, c'est je vais dans l'extrême, mais c'est vous prenez peut-être potentiellement le travail de certaines personnes, vous voyez. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est limite syndicaliste, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire par Proxy Jeux. Par rapport à Proxy Jeux, justement, c'est vous êtes pas contraint. Vous parlez de ce que vous voulez. Vous en dites du bien, du mal. Vous avez, alors que là, c'est vrai que c'est pour des éditeurs ciblés. Mais en fait, c'est plus une question générale, comme tu disais, de syndicaliste un peu ou de vision du jeu, c'est pas spécialement individuel. Moi, je suis content, pareil, de faire Playtime, vous de faire Proxy Jeux. Sur le temps libre, jamais je demanderai à un éditeur ou à voilà de me rémunérer pour ça.
Bon, s'ils veulent nous envoyer des sous, ils peuvent quand même. Ils peuvent nous envoyer des sous. Hein,
mais c'est vrai
pas,
que ça,
on les refuse pas. Hein,
des diamants.
Et des diamants.
Non, mais alors, je suis pas d'accord justement avec toi, David, parce que c'est ça. Si un podcast comme le nôtre reçoit de l'argent d'un éditeur,
tu crois qu'on dira du bien ou du mal de leur jeu?
T'es contraint en fait, tu vois. Tu perds la liberté de parole. C'est on est en train d'entrer dans le débat là. c'est la ligne éditoriale par exemple de Ludovox, tu vois, qui dit nous on veut pas recevoir d'argent des éditeurs. Ou alors bah voilà, il y a une charte, c'est voilà, OK, vous nous envoyez des boîtes, mais alors attention, vous avez signé, nous on en fait ce qu'on veut des boîtes, quoi. Ouais. Tu vois. Alors après, effectivement, ça pourrait être abordé comme ça, mais
ouais, pour avoir discuté avec pas mal de blogueurs, c'est aussi pareil. C'est ok, filez-moi des boîtes. Alors souvent, ce qui se fait par pour le gagnant-gagnant et pour par respect, et peut-être que c'est dommage, c'est que on en parle que si ça nous a plu. Et du coup, ben, ce qui nous plaît pas, ben, on en parle pas. Ce qui est peut-être dommage aussi, parce que justement, c'est de l'information, même si ça plaira peut-être à quelqu'un d'autre. Il y a aussi un des arguments, c'est ça m'a pas plu, mais est-ce que je suis légitime pour dire que ça m'a pas plu? Ça pourrait plaire, ouais, à un tel.
De toute façon, voilà, chacun, on n'aime pas tous les mêmes jeux, et du coup, oui, si moi j'ai pas aimé un jeu, peut-être quelqu'un d'autre l'aimera. C'est pas forcément que le jeu
mais ça
mauvais,
m'empêche
quoi.
Pas de dire que moi je l'ai pas aimé pour telle raison, et peut-être que justement quelqu'un va se reconnaître là-dedans et se dire ben ce jeu il est peut-être qu'il se trompera, mais peut-être, ouais, qu'il est, enfin je pense qu'on doit pas se censurer de et s'empêcher de dire qu'un jeu on le trouve mauvais, on le trouve pas fini, on le trouve chiant, on le trouve juste bien, qui tourne, voilà, un jeu qui tourne, il y a rien de pire, quoi, un jeu bon bah il tourne, OK, cool. Donc ce que je disais, ouais, c'est que il y a des questions personnelles où voilà, par passion on peut le faire et ça nous plaît finalement. Enfin, je veux dire, que ce soit du podcast, que ce soit vous, je pense sur Cannes, c'est une passion aussi, ça vous plaît. Mais de manière générale, d'un point de vue plus macro, disons, il y a cette question quand même d'un moment, ils profitent de quelque chose et ils le profitent parce que finalement nous on est des bonnes poires, qu'ils savons. Alors c'est
voilà,
pas.
Voilà, il y a pas de victimes. Enfin, il y a pas de bourse.
C'est des bonnes poires consentantes, quoi. Mais ça pose quand même la question de est-ce que ça devrait se passer comme ça. Moi je l'accepte ou on l'accepte. Mais de manière plus générale, est-ce que ça devrait être comme ça ou est-ce que les éditeurs à un moment devraient mettre la main à la poche parce que c'est de la com, quoi.
Le débat est lancé.
Ouais, le débat est lancé. On le résoudra pas aujourd'hui. Finalement, celle qui a la meilleure position à la table, c'est Peggy, puisque toi, c'est vraiment un emploi rémunéré. Voilà, tu dis,
ouais,
t'es fonctionnaire.
Je suis la seule payée pour jouer.
Voilà, c'est ça. Quoi.
Et à des jeux finis, pas comme les éditeurs ou les auteurs qui doivent jouer à leur jeu alors qu'il est même pas fini et travailler dessus. Même si Gaëtan nous disait que c'est aussi un plaisir de découvrir voilà les bugs du jeu, quoi.
Bah, on joue aussi à des protos parce que on a des soirées jeux adultes et Du coup, on a pas mal de gros joueurs qui viennent, donc les gens qui travaillent sur des jeux. Est-ce que je peux venir présenter mon jeu ? Donc, ça arrive aussi souvent qu'il y ait des gens qui viennent présenter des petits jeux ou qui veulent montrer ce qu'ils font, quoi.
Et d'ailleurs, au niveau, vous avez des partenariats avec des éditeurs ou des auteurs qui vous disent, bah, tiens, j'ai besoin de bêta-tester mon jeu, c'est un jeu pour les gamins de 6-8 ans. Est-ce que tu peux le faire tester à la ludothèque? Que ce soit d'un point de vue personnel, un auteur que tu connais et qui te demande ça, ou d'un point de vue plus professionnel, un éditeur qui te contacte pour ça?
Non, des éditeurs, non, c'est pas arrivé. C'est plutôt des gens qui sont habitués à venir à nos soirées jeux, qui ont eu des idées de jeux et qui voulaient voir un peu comment ça marchait, qui sont venus avec leur proto, mais pas de choses plus formelles.
D'accord, ok.
Alors, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon de ce que peut être le métier de ludothécaire. Alors, bon, on est loin d'être allé au bout, hein, je pense, mais on va s'arrêter là sur cet épisode.
Ouais, on rappelle juste peut-être, Peggy, ta ludothèque, donc on te retrouve à Trappes.
Alors, je travaille à la maison des jeux de Trappes, c'est dans les Yvelines.
Mmh. Ok. Et Thibaut, Lucha, votre association, c'est
Alors nous, c'est Annecy Ludique, et donc du coup, on est à Annecy, à la MJC.
C'est bien fait, en fait. Ouais. Hein.
Ce serait presque fait pour. Ouais, donc. Donc on est à la MJC des Romains, et donc on se réunit, en fait, alors ça, c'est compliqué, c'est le premier et le troisième jeudi du mois à partir de 20h, donc le soir, où là, on accueille plus les gros joueurs, et ensuite...
Il y a le deuxième règle qui est compliqué.
Et ensuite, on se réunit aussi le deuxième et quatrième samedi du mois.
Oh, punaise.
Voilà. Donc là, à partir de 14h, où, en fait, ce qui nous permet d'accueillir aussi, plutôt les familles.
D'accord. Voilà,
on peut pas accueillir le, en semaine à 20h.
Là, les joueurs qui sont moins gros, en fait. C'est ça. Les joueurs maigres, c'est ça.
Non, parce qu'il y a des gros et moches qui viennent quand même jouer. Enfin.
Ok.
On va donc conclure cet épisode, ici. On va vous retrouver dans une semaine, sûrement, dans une autre partie. On va garder Peggy avec nous, qui va nous parler d'une autre facette de ses activités dans le monde du jeu. Et on retrouvera Stéphane Anctil et Yann Gentil, qui vont rejoindre Peggy à la table pour nous parler un peu des aspects scénaristiques.
Dans le jeu de rôle et les jeux d'enquête.
Voilà, donc Stéphane Anctil et Yann Gentil qui ont rédigé des scénarios pour
Sherlock Holmes
Détective Conseil et Peggy pour Time Stories. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant des commentaires sur le site podcast.unproxy-jeu.fr. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube également. Il y a encore les vidéos plateau numérique. Vous pouvez également retrouver Flavien sur son podcast.
Playtime, Ardon Chronicles et autres.
Pensez à nous noter sur iTunes, hein, oui, sinon on tue un chat.
Voilà.
C'est dit, c'est acté.
Voilà.
Et comment on fait pour vous mettre des notes sous Android?
Sur Android, on ne peut pas.
Sur Android,
je
sais pas s'il y a des...
à nous donner de l'argent sur Patreon aussi, c'est toujours.
Mais si on a le Wi-Fi, on va te faire un compte iTunes, c'est bon.
Et en attendant,
jouez bien.
Donc Peggy, alors, ludothécaire, est-ce que c'est différent de médiathécaire?
Il y a l'actu, on la met pas.
Ah, t'avais de l'actu, toi?
Bah, il y avait 2-3 points, ils sont dedans.
J'étais dedans, moi?
Breaking news.
Alors,
il est l'heure de l'actualité.